Chapitre 82. Luther Tillman avait prévu de s'envoler pour le Kentucky le lendemain, lundi, de louer une voiture à l'aéroport de Louisville pour se rendre à Haut-Fourneau-le-Lac. Restait à déterminer ce qui avait bien pu traumatiser Cora Gunderson là-bas, au point de la pousser à commettre une folie irréparable. Ce dimanche-là, après le déjeuner, il se rendit dans son bureau avec l'intention de réunir des détails sur le congrès auquel Cora avait été invitée. Hazel Sivertson s'était souvenu que la manifestation était parrainée par la Fondation Seedling, une organisation caritative créée et financée par un riche entrepreneur, T. Quinn Eubanks de Traverse City dans le Michigan. En tapant son nom sur Google, Luther avait découvert que Banks s'était suicidé au mois d'octobre précédent, 2 mois après le congrès de Haut-Fourneau-le-Lac. Il avait quitté son domicile de Grande Traverse Bay en voiture, s'était garé près d'un champ de cerisiers, était monté sur un tabouret de camping, avait accroché une corde à une branche solide, s'était passé le nœud autour du cou, puis avait renversé le tabouret d'un coup de pied. Sa femme et ses collaborateurs n'avaient pas compris son geste. Il ne souffrait d'aucune maladie et n'avait jamais été sujet à la moindre crise de dépression. En clair, il avait toutes les raisons de vouloir vivre. L'un des administrateurs de la Fondation Seedling, le milliardaire David James Michael, avait prononcé un éloge funèbre émouvant lors de la cérémonie organisée en son hommage avant d'annoncer qu'il entendait verser 10 millions de dollars à la Fondation en mémoire de T. Quinn. Eubanks avait financé le congrès consacré aux enfants en difficulté et le site de sa fondation précisait qu'il avait séjourné à cette occasion au grand hôtel de Haut-Fourneau-le-Lac. Luther, habitué par des années d'enquête à repérer les coïncidences suspectes, avait trouvé curieux que 2 participants au congrès se soient suicidés à 5 mois d'intervalle. Il se demanda s'il n'y avait pas eu d'autres décès inhabituels parmi les personnes qui avaient assisté au congrès. Le site de la Fondation ne fournissait pas la liste des invités et offrait un résumé assez succinct des sujets abordés lors du congrès, ce qui sembla étrange à Luther. Les organisations caritatives sont en général promptes à promouvoir leurs actions et leurs missions. D'ailleurs, les autres projets liés à Seedling étaient décrits sur le site de façon nettement plus fournie. Hazel Sivertson avait gardé le souvenir que les personnes invitées à Haut-Fourneau-le-Lac avaient toutes reçu à un moment ou à un autre le prix d'enseignant de l'année de la ville ou de l'État qui les employait. À travers le pays, plusieurs centaines d'enseignants avaient été consacrés de la sorte au cours des 2 décennies précédentes. Mais lorsque Luther associa l'expression « enseignant de l'année » à « Haut-Fourneau-le-Lac », aucun résultat n'apparut. Il se demanda tout d'abord si Hazel ne s'était pas trompé. Au terme de 2 heures de recherches assidues, il n'avait pas trouvé un seul nom de participant au congrès, en dehors de celui de Banks. On aurait pu croire que l'événement n'avait pas existé, ou bien qu'il avait été sciemment occulté, peut-être à la suite d'un incident que les dirigeants de la Fondation Seedling ne tenaient pas à partager avec le grand public. Muni du nom et du numéro de téléphone de la dirigeante de la Fondation, Lisa Tosca, Luther se promit de l'appeler le lendemain à la première heure, avant d'aller prendre l'avion. Le soir même, il sortit prendre le frais après le dîner sur la véranda, sans manteau, en écoutant les étoiles, ainsi que l'exprimait Rebecca. Le charme finit par opérer, car il renonça à appeler Lisa Tosca, de peur que Booth Hendrickson l'apprenne. En lui fournissant un discours tout fait regorgeant de platitudes, l'employé du ministère de la Justice l'avait pris pour un enfant à qui l'on fait apprendre par cœur un texte, histoire de flatter la fierté de ses parents. Comme si l'on pouvait calmer les angoisses du grand public par des mots simples. Aucun des poncifs d'Hendrickson n'était à la hauteur de l'événement. L'attentat n'avait pas été perpétré par un loup solitaire. Pas plus qu'il ne s'agissait d'une tuerie en entreprise ou d'une vengeance face à une injustice que tout un chacun pouvait comprendre, à défaut de l'excuser. Hendrickson et ses semblables allaient devoir se montrer un peu plus imaginatifs qu'à leur habitude. Il leur faudrait réinventer entièrement le personnage de Cora, en la présentant sous les traits d'une sociopathe rouée qui s'était fait passer pour une institutrice inoffensive alors qu'elle collectionnait en secret des souvenirs nazis, allant jusqu'à maltraiter les enfants qui lui étaient confiés. Circuler, il n'y a rien à voir. Ils avaient incendié sa maison pour effacer toute trace de la véritable Cora et la transformer en une toile vierge sur laquelle ils auraient tout le loisir de peindre le portrait qui les arrangeait. Pour que l'on cherche de la sorte à cacher les raisons qui avaient poussé Cora à une telle folie meurtrière, il fallait que le secret de Booth Hendrickson et de ses complices soit bien lourd à porter. À défaut de s'adresser à Lisa Tosca, le mieux était encore de se rendre en toute discrétion à Haut-Fourneau-le-Lac. Mettant un terme à sa conversation avec les étoiles, Luther se mit en quête des constellations afin de se rassurer sur la sagesse de l'univers, en dépit du désordre qui régnait sur Terre. Sans qu'il puisse savoir si c'était le fait de la fatigue ou l'inquiétude, il se montra incapable de localiser Cassiopée, Pégase ou le Petit Lion, la constellation du Lynx ou celle d'Hercule, comme si l'univers tel qu'il l'avait encore contemplé la veille avait perdu tout son sens en l'espace d'un jour. La froideur de ce paysage nocturne inconnu le fit frissonner, et il regagna sa maison où il savait pouvoir se consoler en retrouvant un décor familier.